Monsieur Pierre Hyperciel, bonjour, comment allez-vous?
Ben, nous allons bien, vous-même.
Bon, ça va très bien, je vous remercie. Vous avez publié dans Le Devoir une lettre ouverte, une lettre qui s'adressait en fait à la fois au gouvernement, mais dans un sens plus large à la société québécoise, où vous vous interrogiez un peu sur le sort que l'on réserve aux personnes âgées et la façon dont nous avons de les institutionnaliser est-elle la bonne?
Oui.
Et j'aimerais vous entendre expliciter un peu votre point de vue, parce qu'on ne parle pas de médecine, là. Ici, on parle de choix de société.
Oui, 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 absolument. Je ne veux pas faire une entrevue de statistiques, là, mais je veux juste rappeler une réalité démographique pour partir. Mm-hmm. En 1996, là, les 65 ans et plus représentaient 12 % de la population, c'est-à-dire un Québécois sur 8. En 2025, on représente 24 % de 65 ans et plus, donc c'est 1 sur 4. Alors, il y a une réalité sociale, là, qui est immense, et il faut trouver comment on aborde cette question-là. Est-ce qu'on veut institutionnaliser les gens, ce qui coûterait une fortune, ou est-ce qu'on veut leur permettre de vivre à domicile le plus longtemps possible? Moi, j'ai 82 ans, je pense nullement à une
solution
institutionnalisation. Je veux rester à domicile, mm-hmm. et peut-être qu'un jour j'aurai besoin un peu d'aide. Mais je sens pas, moi, que actuellement les gouvernements, depuis 30 ans, ont pris en compte cette réalité-là. Le maintien à domicile, historiquement, était un petit peu, d'une certaine façon, un suivi à l'hôpital. On faisait en sorte que les gens sortent de l'hôpital et s'en aillent à domicile, puis on leur apportait de l'aide. Aujourd'hui, je trouve qu'il faut... Il faut regarder ça au contraire. C'est pas un projet hospitalier, c'est un projet de société. Mm-hmm. Et ce projet de société-là, moi, je ne l'ai pas entendu encadré, défendu dans un contexte de loi.
On l'a entendu souvent, mais pas beaucoup au-delà de l'entendre.
Ben voilà. Et moi, je pense qu'il faut reconnaître cette réalité-là sociale, en faire une réalité sociale. Et on est capable de définir par loi ce qu'on entend par un hôpital. Pourquoi on ne serait pas capable de définir par loi l'orientation qu'on peut avoir par rapport au maintien à domicile, en faire un projet de société, établir là-dedans les budgets, établir des droits, établir des procédures. Et je ne sens pas de gouvernement qui a pris cette question-là au sérieux. Je disais dans mon article que j'ai du respect pour la CAQ, là, mais le seul projet par rapport à cette réalité-là que j'entends, c'est la fameuse maison des aînés. Mm-hmm. Oui, mais écoutez, la maison des aînés, là, il y a des questions immenses là-dessus. Là. D'une part, c'est rendu à peu près à 1 million par personne en termes de construction. Mm-hmm. Ça va coûter une fortune.
Oui, exact. Alors qu'on a déjà des infrastructures qui ne font pas l'affaire, qui peut-être pourraient être mises à niveau et auxquelles on pourrait donner une autre fonction.
Bien, c'est ce que je pense. Moi, je me dis, au lieu de mettre dans le béton cet argent-là, développons deux choses. Mettons à niveau les centres d'accueil qu'on a, là, qui sont devenus malheureusement des centres hospitaliers de longue durée, qui au départ étaient des centres d'accueil. Mettons ce réseau-là à niveau. Et on a besoin d'aide là-dedans. Juste un petit cas particulier. C'est pas réfrigéré. C'est pas climatisé l'été. Bon, ça coûte pas des milliards climatiser les centres d'accueil. Alors, pourquoi on commencerait pas par mettre ces établissements-là à niveau et en même temps, pourquoi on ne mettrait pas en place un vrai programme de maintien à domicile? Pas une promesse électorale, là, encadrée dans une loi. À mon âge, j'ai parfois souvenir d'une époque où il y avait un ministère de la Santé et un ministère des Affaires sociales. Et bon, tout a été fusionné, puis c'est la santé qui a pris toute la place. Mm-hmm. Mais le ministère des Affaires sociales, là, peut-être qu'il faut... Je ne dis pas qu'il faut ressusciter ça, là, je ne suis pas nostalgique, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une mission sociale prise en charge par un ministère. Je suis toujours frappé, par exemple, la DPJ, ça relève du ministère de la Santé, mais ça n'a rien à voir là, voyons donc. Ça relève du ministère
très social comme problématique.
Alors, je me dis, on est là-dedans, là, et je sens pas de la part des partis politiques, là, puis autant chez les libéraux que tous les autres, là, là, je sens pas qu'il y a quelqu'un qui dit il y a un projet de société qui s'appelle maintenir les gens à domicile. Je sens pas ça. Mm-hmm. On entend aux élections, ben vous savez, on a mis 300 millions dans le maintien à domicile, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut plus d'argent, ben, mais il faut surtout un choix social. Ben,
si je vous écoute à premier abord, si je suis un proche aidant, ça me fait frémir un peu parce que le maintien à domicile, ça veut dire on va donner des crédits d'impôt aux proches aidants puis on va les laisser se débrouiller. Puis alors, c'est comme un ou l'autre, ou bien c'est une institutionnalisation qui est très lourde et qui prive d'autonomie les gens qui y sont, ou bien on les envoie dans leur milieu familial avec une tape dans le dos.
Oui, et évidemment, on ne peut pas juste les envoyer dans le milieu familial. Il faut créer un ensemble de services mm-hmm. autour de ça. Mais moi, j'ai évité des pays où on avait fait ça. Je suis allé en Suède, par exemple. Bon, et il y a des programmes de maintien à domicile là, qui sont extrêmement bien définis. Et les gens, les Suédois, sont beaucoup moins institutionnalisés que le sont les Québécois. Vous savez, je donne juste un petit exemple.
Allez-y.
Moi, j'ai une amie dans mon village ici, là, qui a 82 ans, qui est en bonne santé, qui est maintenue à domicile, mais qui a besoin, une fois tous les trois mois, de faire des prescriptions sanguines, là, des prélèvements sanguins. Elle n'a pas de voiture. Mm-hmm. Et c'est à 12 kilomètres d'ici, là. Comment on ne peut pas penser que un vrai programme de maintien à domicile permettrait à cette personne-là d'avoir une infirmière une fois par trois mois qui vient faire les prélèvements chez elle. Il y a des petites mesures comme ça qui ne coûtent pas une fortune, mais qui permettent aux gens de vivre en sécurité dans leur domicile et vivre le plus longtemps possible dans leur domicile.
Dans la lettre que vous avez publiée, enfin, qui a été publiée dans les journaux, vous parlez à la fin de votre texte du concept de centre de jour.
Oui.
Peut-être nous élaborer un peu là-dessus.
Ben, un centre de jour, c'est un endroit physique où les gens qui demeurent à domicile peuvent trouver des services. Mm-hmm. Que ce soit, par exemple, de l'activité physique, que ce soit de l'aide alimentaire, que ce soit des popotes déplacées. Il y a une foule de services qui peuvent être disponibles, qui permettent aux gens de rester à domicile, mais d'avoir accès à des services de base, physiothérapie, logothérapie, etc., socialisation, rencontrer des gens. Ces centres-là ont connu un petit peu de succès il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, et là, on n'en parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tous les gens ont des ordinateurs, là, mais ça ne règle pas le problème de socialisation. Moi, j'avais été frappé, je le dis dans mon texte, en Suède, toute personne n'était jamais plus loin que de 500 mètres d'un centre de jour à cette époque-là, où on pouvait trouver des services. Ça me semble avoir disparu actuellement. Là. Il y aurait quelque chose à recréer. Est-ce que c'est un centre de jour, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas exactement ce qu'il ferait, mais qui permettrait aux gens à domicile d'avoir accès à des services plus facilement sans être obligé de se déplacer à 20 km.
Parce que c'est sûr que dans le continuum de l'existence d'une personne qui, comme tout le monde, vieillit, mais il y a à un moment donné, petit à petit, la perte d'autonomie commence à se caractériser par un peu plus de besoin de ceci ou de cela.
Oui.
Alors, votre idée est que les gens puissent trouver cet appui-là sans nécessairement du jour au lendemain être institutionnalisés.
Voilà, parce que les chiffres sont évidents. Ça coûte beaucoup moins cher maintenir quelqu'un à domicile, quitte à lui envoyer certains services. Je donne un autre exemple. Lorsqu'une personne âgée n'est plus en mesure de déblayer sa cour, puis de couper son gazon, ça coûte pas des millions de lui donner de l'aide matérielle. Ça la rassure. Et ça fait en sorte qu'elle peut continuer à demeurer à domicile. Mais c'est ces gammes de services-là qu'on n'arrive pas à définir et on n'arrive pas à les encadrer dans un contexte légal pour dire aux gens, écoutez, vous avez droit à ça. C'est cette aide-là qui permet à des gens de rester à domicile. Par exemple, l'alimentation, c'est un facteur de premier niveau, ça.
Oui.
Bon, est-ce qu'il faut penser à des popotes roulantes ou quelque autre système qui fait en sorte qu'une personne âgée à domicile puisse avoir quelques fois par semaine des repas à domicile. Il y a une série de mesures comme celle-là qui ne coûtent pas des milliards, mais qui permettent aux gens de rester à domicile. Parce que pour moi, l'institutionnalisation, ce n'est pas un projet de société.
C'est le dernier recours. C'est au moment où ça devient vraiment lourd. C'est là que l'aspect médical prend le pas sur l'aspect du travailleur ou de la travailleuse sociale. Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Ça suppose une certaine décentralisation, une politique comme celle-là. Il va falloir mettre les municipalités, les CLSC de la partie, parce que on parle de beaucoup de services de proximité, finalement.
Oui, il faut que les municipalités entrent dans ce projet-là. Mais j'ai développé aussi, puis vous l'avez mentionné dans mon texte, pour moi c'est le travailleur social qui est le maître d'œuvre là-dedans. C'est lui qui est le plus en mesure d'évaluer la situation sociale, est-ce qu'on peut permettre à la personne de rester chez elle. Et je me permets de rappeler une chose aussi, si vous permettez.
Oui.
Le docteur Hébert, qui est un ancien ministre de la Santé, qui est un des ministres qui croyait beaucoup à cette question du maintien à domicile, il vient de publier un article dans la presse la semaine passée qui dit que dans la deuxième ou troisième vague du COVID, il y a eu plus de décès à domicile que dans les CHSLD.
D'accord.
Ça aussi, ça fait partie de la réalité.
Ça fait partie de tout à fait. Mais nous allons devoir nous arrêter là-dessus, M. Hyperciel. C'est un débat de société, comme vous dites. C'est pas une question. La loi ou le cadre qui va suivre sera une chose, mais avant d'y arriver, il faut d'abord se regarder collectivement face à face dans le miroir et se demander qu'est-ce qu'on veut faire du cadre de notre population qui va avoir besoin à la fois de soutien, mais en même temps de dignité.
Oui.
Je vous remercie beaucoup d'avoir intervenu, d'avoir jeté un pavé dans la mare. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Au revoir.